Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
We must find that woman.
Culture Prohibée va aujourd'hui répondre à l'une des questions qui vous taraudent le plus, chères auditrices et auditeurs. Quoi lire cet été ? Nous allons aujourd'hui vous proposer comme lecture, qui devrait vous enchanter, un ouvrage qui s'appelle Peter Sellers, L'homme qui n'existait pas, un ouvrage de Jean-Christophe Manusso, paru chez Carlotta. On reviendra aussi sur trois livres des éditions Alhambra, les trois premiers opus de la collection Alpha, à savoir Le Seigneur des Anneaux, Gandalf militant de Aurélien Catin, Babe, le cochon dans la ville, l'avant-garde de la fin du monde de Arthur Louis Saint-Galt, et Hook ou la revanche du capitaine Crochet, un moment d'absence, de Warren Lambert. Alors Warren Lambert qui est donc à la fois auteur et éditeur, et avec qui nous sommes allés nous entretenir. Vous écouterez d'ailleurs, il y a un petit bruit de fond, parce que Warren Lambert, au moment où nous nous entretenions, était dans un parc, en plein air, il profitait du soleil. On va revenir aussi sur un ouvrage d'Esther Hervy. Alors Esther Hervy, elle était déjà venue dans l'émission qu'on avait consacrée au serial killer et au cinéma, parce qu'elle a écrit pas mal d'ouvrages sur les tueurs en série. Et on va revenir avec elle sur ce livre qui est paru aux éditions du Rocher, qui s'appelle donc Hollywood and True Crime Stories, les faits divers qui ont inspiré le cinéma. L'équipe de Culture Prohibée tient à remercier Lucie Mautier, Séverine Danflou, Jean-Philippe Bertrand et Pierre-Julien Marest pour leur aide sur cette émission. Pour causer bouquin aujourd'hui, nous sommes accompagnés à distance de notre indispensable Johan Chanoir, dit le chat errant, historien, critique de cinéma et enseignant à Sciences Po. Miaou à toi, Johan.
Miaou à toute l'équipe.
Et par contre, là, il n'est pas à distance. Il est juste à côté de moi. Il est présent dans ce studio. Je veux bien sûr parler de Thomas Roland, dit le loup-garou picard, qui chaque nuit de pleine lune redige de sanglants écrits pour divers médias. Salut Thomas.
Salut Jérôme et salut Johan. Et bien évidemment, salut à toutes.
Mon cher Johan, je sais que tu es venu dans ta besace avec un livre paru chez Carlotta, un livre sur Peter Sellers qui s'appelle « Peter Sellers, l'homme qui n'existait pas », un livre de Jean-Christophe Manusso, un livre que tu m'as conseillé, que j'ai pris plaisir à lire également. Mais je vais te laisser nous en parler un petit peu de ce petit livre, parce que c'est un tout petit format.
Tout à fait. Bon, c'est un livre édité par nos amis de Carlotta, qui sont toujours très actifs sur le plan éditorial littéraire, on va dire, parce que bon, ils ont réédité récemment Le Toret, comme tu sais, son massacre à la tronçonneuse. Donc c'est vraiment un flux éditorial qui ne s'arrête pas, et c'est toujours des produits de qualité. Et là, c'est un livre un peu atypique, comme tu l'as dit, Jérôme. C'est d'abord un petit format. C'est vraiment déjà un petit format parce que c'est pas un format habituel, et puis un petit format parce qu'en fait, le nombre des pages, sans aucune critique, est limité à 91 exactement. Alors, nos éditeurs qui seront l'acheter, peut-être découvriront que c'est quelque chose aussi encore d'atypique, parce qu'il n'y a aucune note de bas de page. Bon, il y a malgré tout une bibliographie à la fin vraiment très très solide. On voit que l'auteur a vraiment travaillé énormément sur son sujet, il a fait tout bois, il a pu dans les interviews, il a lu des ouvrages de réalisateurs qui ont travaillé avec Peter Sellers. Donc c'est vraiment un bel ouvrage, et ça se lit vraiment. Moi je l'ai lu en une heure, très vite. C'est très plaisant, c'est très bien documenté. Alors, il a un angle d'attaque très original, hein, c'est le sous-titre d'ailleurs de son essai, c'est Peter Sellers, donc l'homme qui n'existait pas. Et en fait, il part de l'hypothèse et qui tient la route, je ne sais pas ce que tu en penseras Jérôme, mais en fait, Peter Sellers s'est toujours effacé un peu derrière ses rôles. J'ai bien ses rôles parce qu'en fait, il était capable de jouer plusieurs personnages au sein d'un même film. On pense par exemple au cycle de la Panthère Rose, par exemple, mais pas seulement, ou Stanley Kubrick hein, avec Docteur Folamour. Et on a du mal à trouver en fait qui était Peter Sellers, qui était l'homme Peter Sellers, hein, capable également de prendre dans une même séquence plusieurs accents très différents. Donc c'est un peu un homme à géométrie variable, au moins dans ses rôles de composition. Par contre, on découvre, bon ça je l'avais déjà vu, une interview dans un magazine américain, c'est pas un personnage sur le plan de la vie privée très respectable. C'est même carrément, on peut le dire, une ordure. Il s'est comporté avec ses femmes parfois de manière, et même souvent de manière très détestable. Il a eu des mots vraiment très très blessants, des attitudes encore plus blessantes avec son entourage. Et bon, après, en fait, il cherche toujours l'âme sœur et bon, il finit par vraiment par un mariage avec quelqu'un de très jeune par rapport à lui, et puis en fait qui va le phagocyter. Donc sur le plan purement humain, c'est pas quelqu'un de très intéressant, et c'est d'ailleurs un des aspects les plus importants de cet ouvrage, c'est de montrer que quelqu'un qui a fait rire quand même des générations de téléspectateurs, même s'il y a eu des hiatus hein, dans sa longue carrière. C'est pas quelqu'un de très intéressant sur le plan personnel. Et c'est peut-être pour ça aussi, d'ailleurs, pour conclure, que l'auteur a choisi l'homme qui n'existait pas. Parce que l'homme privé n'est pas très intéressant. Et on préfère se rabattre sur l'homme qui n'existe pas, parce que c'est un homme de cinéma.
Après Peter Sellers, l'homme qui n'existait pas, donc de Jean-Christophe Manusso, paru chez Carlotta, on va changer d'éditeur, on va partir aux éditions Alhambra, on va aborder une toute nouvelle collection qui s'appelle la collection Alpha. La collection Alpha, donc c'est les Alhambra Éditions qui nous sort tout ça, c'est une collection de petits formats en fait. Là il y a la première saison qui est parue, il y a trois opus. C'est une collection à pas cher, hein, voilà. Et c'est des tout petits livres qui font 12 cm5 sur 9 cm5 et qui se lisent très vite hein, et qui font entre 56 et 64 pages selon les volumes. Voilà. Et ils ont la particularité d'avoir de très belles illustrations noir et blanc. Il y a de la photogravure, ils ont des dos carrés, collés. C'est en offset et puis couverture couleur très belle qui reproduit en fait les tickets de cinéma à l'ancienne. Ce sont des beaux objets. Voilà, ce sont des beaux objets qu'on a plaisir à contempler et à voir dans sa bibliothèque. Alors, avant de faire plus ample connaissance avec la collection via son éditeur Warren Lambert et aussi un des auteurs d'un des trois livres, là, je vais juste vous résumer rapidement les trois livres de la collection qui sont tous différents et à la fois tous pertinents et qui se complètent bien. Il y a Le Seigneur des Anneaux, Gandalf Militant d'Aurélien Catin, qui est vraiment un livre qui s'interroge sur les pratiques dans le milieu du militantisme et en particulier dans l'action syndicale, quoi, hein, puisque Aurélien Catin, lui, il est lui-même auteur et militant pour les droits économiques, membre de l'association d'éducation populaire Réseau Salariat, et il a travaillé sur la notion de salaire à vie, en particulier dans le champ des arts visuels, et il a écrit « Notre condition, essai pour le salaire au travail artistique », qui est paru chez Riot Edition en 2021. Et donc, c'est plutôt étonnant de le voir là, aborder le cinéma, et d'autant plus qu'en fait, il prend la figure du fameux Gandalf dans les films de Peter Jackson, dans Le Seigneur des Anneaux, pour nous expliquer en quoi Gandalf serait un modèle de dirigeant, plus un modèle de dirigeant syndical, mais on va en parler un peu plus avec Warren Lambert dans les minutes qui viennent. Également dans la collection, le deuxième opus, c'est Babe, le cochon dans la ville, l'avant-garde de la fin du monde, un livre de Arthur Louis Saint-Galt. Alors là, on nous parle d'un film qui a été décrié à son époque, mais qui aujourd'hui est un peu plus apprécié, qui était ressorti chez BQHL. On en avait parlé dans l'émission, un film qui a un vrai côté punk en fait. Et là, c'est vraiment un livre qui prend tout son sens, parce que c'est un livre, sans doute, s'il avait été écrit avant le Covid, on n'aurait peut-être pas pris autant au sérieux. Le livre, dans un monde post-Covid, un monde nouveau qui s'avère pire que le monde d'avant, en fait, hein, voilà, il prend vraiment tout son sens. Et d'ailleurs, sans la pandémie, on peut dire que le livre n'aurait pas vu le jour, hein, puisque l'auteur le dit lui-même, et que Arthur Louis Saint-Galt, donc, qui a écrit entre autres pour le blog des éditions du Feu Sacré, édition qu'on aime bien puisqu'on en a déjà parlé, qui a écrit aussi l'Évangile selon Nick Cave, la speakerine de Radio Infinie, ou pourquoi je lis Les Mille et Une Nuits, qui est paru chez le Feu Sacré édition. Là, il se propose de partir de ce film un peu mal aimé pour déboucher sur une réflexion sur notre société post-Covid et confrontée à une crise environnementale grave et sans précédent. Et puis le troisième livre, c'est un livre signé Warren Lambert qui s'appelle Hook ou la revanche du capitaine Crochet, un moment d'absence. Alors il est très différent des deux autres, d'abord parce qu'il part d'un film qui est vraiment mal aimé, alors lui qui est vraiment décrié, y compris par son réalisateur, mais on va y revenir avec l'auteur lui-même. Et il en tire un livre très intime, où il parle de la relation à sa famille et beaucoup de la relation avec son père, en fait, en vérité. Et il écrit d'ailleurs dans le livre, moi, quelque chose qui m'a particulièrement marqué, en fait, qui est que, la condition chez Spielberg pour que le fils se réconcilie avec le père était que le père se réconcilie d'abord avec son enfance. Et je trouve que cette phrase, quand on connaît le rapport à l'enfance du cinéma de Spielberg, elle est elle prend tout son sens lorsqu'on connaît vraiment le cinéma de Spielberg. Et d'ailleurs, du coup, Spielberg devrait peut-être la lire pour réévaluer son propre film. Hein, en tout cas, moi, ce que je vous propose de toute façon, c'est qu'on échange tout de suite donc avec Warren Lambert. Warren Lambert qui est donc à la fois l'éditeur de ces trois livres et qui en a signé donc le troisième tome. Alors je rappelle, la collection Alpha chez Alhambra Édition, premier tome d'Aurélien Catin, Le Seigneur des Anneaux, Gandalf militant, deuxième tome de Arthur Louis Saint-Galt, Babe le cochon dans la ville, l'avant-garde de la fin du monde, et enfin, Hook ou la revanche du capitaine Crochet, un moment d'absence de Warren Lambert. Et donc tout de suite, Warren Lambert au micro de Culture Prohibée.
I had words, I'd sing a day for you.
La 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 la
la la la la
la la la la la la la la la.
Bonjour Warren Lambert.
Bonjour Jérôme.
Alors nous sommes ensemble aujourd'hui pour aborder la collection Alpha, la série Alpha des éditions Alhambra. Et avant d'aborder les ouvrages en détail, est-ce que vous pouvez nous présenter alors les éditions Alhambra et puis cette collection Alpha, quelle est son ambition, quelle est sa ligne, quoi, ligne directrice?
Ouais. Alors, les éditions Alhambra, elles sont nées en 2024, fin 2024. On avait, donc je les co-dirige avec mon frère, donc Steven Lambert, Et voilà, la ligne, elle est relativement simple, c'est-à-dire qu'on essaye de faire des livres qui sont à la fois des prototypes d'un point de vue à la fois graphique, qui donnent la parole, on a trois collections, la principale en fait essaye aussi de publier un certain nombre d'écrits qui sont des écrits de cinéastes, d'acteurs, d'actrices, de techniciens, techniciennes. Donc donner aussi en fait la parole à des personnes voilà qui par ailleurs écrivent mais qui sont vraiment dans le travail même du cinéma. Donc on déniche des textes, on les traduit pour certains, pour beaucoup même, et on les publie voilà. Et on essaie de faire un travail graphique en fait qui donne au livre une sorte d'adéquation entre fond et forme. Et la collection Alpha, en fait, est une de ces trois collections. On a une collection principale à l'Ombra, on a une collection Alpha, donc, et une collection qui s'appelle Paris. Ces trois collections ont pour nom, en fait, des cinémas, qui étaient des cinémas de notre enfance dans la ville où on est né, la ville de Troyes, dans l'Aube, donc Grand Est, où on est basé. Et voilà, cette petite collection-là, elle se rapproche plutôt, on va dire, de la... Moi, je voulais un équivalent presque de quelque chose qui n'existe pas trop, je trouve, surtout dans ce format assez court, c'est-à-dire quelque chose qui se rapproche presque de la nouvelle, avec quelque chose d'assez romanesque, quelque chose qui peut flirter avec plutôt l'autoportrait. Voilà, donc je suis allé voir des auteurs, pour commencer proches de moi, des auteurs et autrices, et je leur ai demandé en fait s'il y avait un film ou une série télé qui avait marqué une sorte de rupture dans leur rapport aux images.
Vous l'avez dit vous-même, hein, mais il y a le fond, il y a la forme. Alors vous avez aussi travaillé sur un ouvrage sur le tarot, vous avez travaillé sur un ouvrage sur la troupe du Splendide. Ce travail sur le tarot était aussi un travail où fond et forme étaient alliés. J'ai pu contempler les images sur le net. Là, les trois petits opus de la série Alpha, on est dans du petit format, ils ont l'aspect des tickets de cinéma d'autrefois, j'ai vu qu'il y avait la Home Studio qui a travaillé dessus, qu'il y avait l'artiste Thomas Perrino qui a travaillé dessus, il y a aussi de la photogravure. Qu'est-ce qui motive tous ces choix esthétiques, avant de parler du contenu des livres, qu'est-ce qui motive tous ces choix esthétiques qui font que ce ne sont pas seulement des livres à lire, c'est aussi des livres à regarder?
Oui, alors en fait, déjà par amour, simplement nous, en fait, en tant que lecteurs, Steven et moi, on est en fait les premiers à vraiment aimer quand il y a un travail qui est fait entre fond et forme. On n'est pas les seuls à les faire. Hein. Il y a aussi, enfin, je parle en plus dans les éditions consacrées au cinéma, on a des amis, donc par exemple de Façonnage qu'ils font, Façonnage Édition, qui est dirigé par Jérôme Dietmar. Il y a des maisons d'édition qui le font. Nous, on a toujours été en fait attirés simplement par ça. C'est quelque chose presque qui se rapproche à la fois en fait de l'amour pour l'artisanat, de manière générale, et à la fois un amour, on va dire aussi comme de faire des livres comme une pratique artistique. Voilà, donc on se rapproche aussi de quelque chose qui tournerait autour de ça, ce qui veut dire qu'apprendre les outils, de maquette, apprendre en fait la chaîne de l'impression, apprendre les rapports avec le papier. Dans ce cas, la collection Alpha, vous l'avez mentionné, il y a Thomas Perrino, qui est donc maître quartier, qui avait fait ce fameux tarot Perrino, donc publié chez des confrères au Faux Sacré. Et en fait, Thomas, donc, qui a gravé donc, cette première de couverture, qui est un ancien ticket, qu'on a retravaillé, lui et moi, évidemment. Et je voulais, en fait, quelque chose qui... Là où les tickets sont plutôt faits de manière industrielle, mais en même temps, en conservant une patte comme ça, un petit peu, avec des irrégularités, des choses qui évoquent quand même... un travail un peu artisanal fait à la main. Je voulais retrouver ça. Et Thomas nous accompagne depuis très longtemps, y compris effectivement avec les collègues du Feu, donc sur plusieurs projets. Donc il y en aura d'autres d'ailleurs, ça je peux le dire déjà. Donc voilà.
Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir éditeur avec votre frère?
Alors on a il y a cet amour du cinéma comme je vous ai dit qui s'est jamais tari, et moi j'ai fait des études par ailleurs de cinéma à l'université, à la Sorbonne en fait, jusqu'à la maîtrise, et ensuite ça a été un parcours un peu étrange, un peu que je trouve aujourd'hui au contraire d'une cohérence parfaite, en tout cas pour moi maintenant, mais qui a d'abord navigué pour moi d'abord par l'écriture. Donc j'ai écrit pendant certaines années en fait comme critique, notamment la Septième Obsession, et puis ensuite on s'est rapproché donc de ses collègues du Feu Sacré que vous mentionniez, avec qui justement ce tarot avait été fait donc en 2022. Et puis ensuite on a pris simplement nous notre envol avec Steven pour des projets qui s'accumulaient et pour lesquels on savait qu'il fallait créer notre structure. Voilà.
Alors, la collection Alpha, elle débute par un livre qui s'appelle « Le Seigneur des Anneaux, Gandalf, militant de Aurélien Catin ». Alors, pourquoi avoir choisi de débuter la collection par ce livre ? Lui, il est connu, l'auteur, pour être un militant syndical. Et en fait, vous faites aussi le choix, à travers ce premier livre, aussi d'un film qui est peut-être un peu plus connu, un peu plus aimé. On y reviendra plus tard, d'ailleurs, pour les autres choix.
Oui, bah Aurélien, donc c'est un ami, hein. C'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a peut-être plus de 10 ans maintenant autour d'une revue en ligne qui s'appelait Fédition, qui était une revue donc consacrée au cinéma et dans laquelle on s'est beaucoup amusé à une époque pendant plusieurs années à écrire des textes dont est issu complètement le livre que j'ai publié en 2019 sur le Splendide, hein, qui est dont les premiers textes embryonnaires qu'on nourrit le livre sont clairement issus de ces articles que j'avais écrits, moi et d'autres, hein, parce que d'ailleurs c'était une sorte de réflexion collective qu'on a eue à l'époque autour de ça. Et donc Aurélien, moi j'ai connu comme romancier, comme auteur de nouvelles, à qui j'ai proposé donc d'écrire dans cette revue de cinéma. Ça me semblait pour moi évident en fait d'aller à la fois autant vers Aurélien que vers Arthur Louis, que j'ai aussi connu à cette époque-là, et de leur proposer quelque chose. Et il s'avère que pour ces trois textes, le mien compris, il y a toujours eu effectivement, il y a eu quelque chose où cette demande allait arriver au bon moment pour chacun. Et elle a permis en fait par le choix des films de faire une sorte de bilan aussi, sans nostalgie ou sans non plus grandiloquence non plus, mais juste simplement de faire une sorte de bilan. Donc le sien parle de Gandalf, de la figure de Gandalf, donc le mage du Seigneur des Anneaux. Et effectivement, il a pu comme ça faire une sorte de retour sur ces dernières années en fait de militance suite à l'apparition de son livre qui s'appelle Notre Condition, qui parle du salaire en fait des artistes auto.
Et au final, alors vous pensez que Gandalf, ferait un bon dirigeant pour la France en 2027 ?
En fait, Gandalf, son but, et c'est là vraiment l'angle d'Aurélien, c'est qu'en fait Gandalf ne prend pas part, entre guillemets, vraiment l'action politique. Son but, et ça c'est vraiment rappelé dès le début du livre par Aurélien, c'est vraiment en fait de mobiliser les troupes. Ça veut dire de faire son trajet en fait en terre du milieu, et d'essayer de rassembler le maximum en fait de peuples, de tribus, d'espèces différentes, et d'essayer en fait de les unir malgré justement toute leur diversité, différences, etc. Donc en fait, Gandalf est presque celui qui, mais ça c'est dit après dans les livres, qui peut le moins intervenir, qui peut le moins en fait être un leader, qu'on n'a presque pas le droit de par sa mission. Que c'est une mission divine, etc. Les fans du Seigneur des Anneaux qui ont lu les autres livres périphériques, entre guillemets, à la trilogie, le savent, hein, c'est dit. Donc, Gandalf, c'est presque l'inverse du leadership et du personnage de tête. Hein. C'est vraiment juste quelqu'un dont l'œuvre est vraiment d'essayer de cristalliser, on va dire, les énergies des différents peuples. Voilà. A kind and steady heart can make a gray sky blue, and a task that seems impossible is quite possible for you. A kind and steady heart
It may not seem like very much right now, but it'll do, it'll do. When you find yourself in the middle of a storm and you're tired and cold and wet, and you're looking for a place that's cozy and warm, you make it if you never forget. A kind and steady heart can conquer doubt and fear. A little courage goes a long, long way, gets you a little bit further down the road each day. And before you know it, you'll hear someone say, "That'll do, hey, that'll do."
Vous écoutez Warren Lambert, d'Alhambra Édition, auteur de Hook ou la revanche du capitaine Crochet, pour évoquer la collection Alpha au micro de Culture Prohibée.
A kind and steady heart is sure to see you through. A little courage goes a long, long way, gets you a little bit further down the road each day. And before you know it, you'll hear someone say, "That'll do, that'll do, that'll do, babe, that'll do."
Le deuxième ouvrage, avant qu'on passe à votre ouvrage, c'est un livre qui est consacré alors à un film qui est plus apprécié avec le temps, hein, qui s'appelle Babe, le cochon dans la ville. Et ce livre d'Arthur Louis Saint-Gall, ça s'appelle Babe, le cochon dans la ville. Donc, l'avant-garde de la fin du monde. Et alors, si le premier livre pouvait être vu comme presque un précis méthodologique pour militants syndicats, là, celui-ci est un livre, moi, qui me paraît encore plus un livre militant. Parce que son message, en fait, il se confond presque avec d'ailleurs le message de George Miller, hein, c'est-à-dire, il semble nous dire que d'ici peu, il ne restera sur cette planète peut-être que très peu d'espèces, mais en tout cas pas la nôtre, quoi. C'est un livre un peu qui tire une sorte de sonnette d'alarme, je trouve.
Oui, alors c'est un livre, en fait, qui est un peu à l'image du film. Un livre qui, du coup, c'est une sorte d'entre-deux. Alors, le film avait été très, très boudé, étant donné qu'en fait, c'est un film qui était, selon certains critiques, trop sombre pour les enfants, trop enfantin, parce que ça reste des personnages, des animaux qui parlent, trop enfantin pour les adultes. Et le livre est un peu à cette image-là. C'est-à-dire qu'en fait, Arthur Louis revoit Babe pendant le confinement, voit toutes ces images d'animaux tout à coup sauvages qui réinvestissent les villes, et là il opère, en fait il fait une opération de montage, et il se dit, en tout cas pendant le confinement, effectivement, s'il y a une fin du monde, s'il y a une la fin de l'homme, en fait, c'est ce qu'il dit, hein, la fin du monde, c'est simplement la fin de l'homme. On peut la voir, on a pu la voir, en fait, parmi ces brèves vidéos. Et donc, le livre se construit comme ça, en avançant à la fois sur le film, sur sa trajectoire, et puis en essayant de convoquer des figures, alors qu'ils soient de la littérature, qui sont il y a toujours une sorte d'aspect cosmique ou métaphysique, on va dire, dans son écriture, et en même temps la trajectoire du livre ramène vers ces vidéos, ces vidéos d'animaux, en fait, qu'on a vu faire au milieu de la banlieue parisienne, des pingouins en Australie, et le livre fait cette trajectoire-là.
on en arrive au troisième livre de la collection, qui est le vôtre, qui est un choix presque kamikaze, d'ailleurs, parce qu'autant le film de George Miller, avec le temps, il a été réévalué, autant le votre livre, hein, donc, qui s'appelle Hook ou la revanche du capitaine Crochet, un moment d'absence, qui est donc le troisième opus de cette collection Alpha chez Alhambra Édition, est un livre qui se consacre à un film quand même qui est même renié par son propre metteur en scène, qui est sans doute le film le moins aimé avec le bon gros géant des fans de Spielberg. Donc vous faites un choix kamikaze, vous êtes comme ça, vous n'avez peur de rien.
Oui, non, mais alors c'est un film que moi, je juge absolument pas raté. C'est des choses bon qui appartiennent, je veux dire, à Spielberg, hein, de le considérer comme raté, mais ça c'est lui que ça regarde, on a envie de dire. Après, moi c'est un film simplement que j'ai vu énormément de fois et dont je n'ai toujours pas compris finalement ce qu'il essayait de me dire depuis toutes ces années, depuis tous ces visionnages, depuis l'enfance et à des moments même sporadiquement après évidemment. Et donc voilà, c'était une manière aussi, comme je le disais, de faire un peu bilan d'une histoire familiale. Donc c'est aussi beaucoup en rapport avec mon père. Donc c'est mon père qui nous a emmenés, Steven et moi, beaucoup au cinéma, évidemment, quand on était petits. Et il y a ce lien simplement avec la figure paternelle d'Dan Hook, voilà, puisque c'est censé être à la fois un enfant de 10 ans et en même temps c'est un adulte de 40 ans. Donc rien que, moi je trouve que rien que cette idée-là, elle est audacieuse. Et je trouve rien que pour ça, j'ai toujours trouvé ce film très étrange et très beau. Et en plus, il s'avère que bon, pour tout un tas de là en ce moment de coïncidences, il s'avère qu'en plus les livres, le conte de Peter Pan, en plus. Revient sous deux traductions en ce moment, une chez POL, une chez à la Pléiade quand même. Et en fait, moi, je n'avais jamais lu le conte, et donc je l'ai lu là, mais bien après la sortie du coup des Alphas. Et en fait, le livre est absolument pas un livre, entre guillemets, pour enfants. C'est ce que dit Azoulay, donc une des traductrices. C'est un livre, en fait, c'est un conte sur l'enfance, mais ce n'est pas un conte pour enfants. Je dirais un peu la même chose de Hook. Voilà, et donc c'est d'essayer de scruter ça, en fait, dans un livre assez court, qui convoque des figures plutôt intimes, plutôt familiales, et d'essayer de voir comment tout ça résonne, hein, c'est toujours la même chose.
Alors, vous l'avez dit, votre livre, c'est une démarche qui est très intime, hein, et ça vient forcément interpeller tous les cinéphiles, parce qu'en fait, quand on est cinéphile, à chaque moment de notre vie, on rattache un film, en fait. Voir à chaque personne, chaque moment heureux, chaque moment triste. Est-ce que vous aviez ça en tête quand vous avez écrit ce petit essai qui est très autobiographique en fin de compte?
Oui, absolument. Oui. Bah, c'est le plus directement autobiographique, quoi. Mais bon, là-dessus, j'ai vraiment pas de. Moi, alors peut-être à tort, mais j'ai toujours, en tout cas, écrit comme ça. Je n'arrive pas à vraiment écrire autrement. Le Splendide était quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire que c'était presque une réflexion plutôt sur le fait d'être français par les films qu'on peut découvrir, et les films qu'on peut découvrir, on va dire, qui sont majoritaires, qui ont le consensus avec eux, qui ne sont jamais remis en question, en fait, c'était évidemment La Troupe du Splendide. Pour Hook, bon, ben là, comme vous l'avez dit, c'est presque le film qui est à la fois réhabilité, mais qui reste à la fois celui que tous les Spielbergiens considèrent comme le plus faible. Et donc moi, c'est celui qui m'a toujours, en fait, en tout cas, paru le plus riche. Et donc voilà, j'ai pas vraiment, entre guillemets, de mérite. J'ai toujours écrit avec cette veine autobiographique, ou en tout cas très romanesque. Voilà, à la fois que ce soit les articles que j'ai pu écrire sur la 7e ou les livres, voilà, qui sont à venir. En fait, c'est là-dessus. Bon, contrairement à Arthur Louis et à Aurélien, ça, c'est vraiment une veine que moi, je tire, moi, dans mon travail d'écriture.
Est-ce que vous avez, je suppose que oui, hein, mais des projets à venir, là, dans cette collection, parce qu'elle ne peut pas en rester là, c'est...
Non, bien sûr, il y a déjà la deuxième qui est en route. Oui, oui, oui.
D'accord.
Oui, oui, il y a déjà la deuxième saison qui est en route. En fait, la première, bon, pour des questions uniquement de calendrier, il s'avère qu'elle est cette première saison intégralement masculine. La deuxième sera intégralement féminine. Et il y a déjà des auteurs qui planchent pour la troisième. Et donc la deuxième, les autrices sont déjà là, les objets de cinéma ou de télévision sont déjà là. Il y aura a priori donc deux séries et cette fois-ci un dessin animé. Donc c'est aussi l'entrée en fait des séries télé, puisque c'était aussi une des possibilités pour les auteurs autrices à qui j'ai parlé en premier de cette collection. Et donc on a deux séries télé en fait qui arrivent. La première, ça sera Columbo, voilà, par Manon Farja. On a en fait la série télé Mon oncle Charlie, donc avec Charlie Chin, le très controversé Charlie Chin, voilà, qui sera écrit par Camille Grandon. Et on a enfin Pousselina, voilà, qui est un dessin animé d'ailleurs peu connu, mais du réalisateur que peut-être pour des auditeurs, auditrices, spectateurs, spectatrices en même temps, dira plus quelque chose, le dessin animé Brisby. Le secret de Nîmes, voilà, qui est un dessin animé un peu
Don Bluth.
Exactement, voilà, qui est un dessin animé, aussi pour enfants, mais plutôt pour adultes en fait. Que quand on a vu enfant, il est difficile de l'avoir oublié, je trouve. Et donc, il avait fait d'autres. Enfin, quelqu'un qui a travaillé aussi pour Disney, qui a travaillé sur plein d'autres dessins animés moins connus. Et notamment donc ce dessin animé Pousselina, et donc c'est mon amie Maud Bachotet, voilà, qui est aussi autrice et aussi éditrice d'ailleurs, voilà.
Vous écoutez Culture Prohibée spéciale sortie bouquet. Après cet échange avec Warren Lambert pour aborder donc cette nouvelle collection, la collection Alpha, vous avez compris que c'est une collection qui nous a enchantés, qui nous a vraiment plu, en particulier parce qu'il y a cette adéquation forme et fond qui est assez chouette. Voilà. Et on va maintenant s'intéresser à quelque chose de moins chouette quand même, c'est-à-dire les true crime. Voilà. Horreur, malheur, comme le chantait l'orchestre du Splendide, voilà, pour faire un petit lien avec Warren Lambert. Mon cher Thomas, horreur, malheur, parce que tu vas nous parler de Hollywood and True Crime Stories, les faits divers qui ont inspiré le cinéma, un livre paru aux éditions du Rocher et signé Esther Hervy.
L'autrice revient sur 10 films, 10 classiques qui s'inspirent de faits divers, de crimes sanglants, d'histoires authentiques, enfin pas toutes, à glacer les sangs. Les tueurs en série côtoient les animaux meurtriers, sans oublier quelques récits surnaturels qui donnent les foi. Pourtant, nul besoin d'avoir la foi pour frissonner à la lecture de Hollywood and True Crime Stories, car certains monstres sont bien réels et peuvent être rencontrés au détour d'un arbre lors d'une promenade en forêt ou surgir d'un rocher au cours d'une baignade estivale. Il est également plus probable d'avoir un voisin qui collectionne les peaux et organes humains, comme Ed Gein, qui inspira Massacre à tronçonneuse, que d'habiter une maison hantée ou de mourir dans son sommeil parce qu'on y est poursuivi par quelques créatures maléfiques. Âme sensible s'abstenir, Esther Hervy n'étant pas avare de détails croustillants pour passer au crible ces 10 films, en les remettant dans le contexte texte de leur source d'inspiration. Si certaines histoires sont connues, d'autres le sont beaucoup moins, comme celle à l'origine de Jeepers Creepers, à s'éloigner des ennuis judiciaires de son réalisateur, Victor Salva. On croyait que c'était que son inspiration venait de ses problèmes avec des jeunes hommes, on va dire. Mais en fait, le film semble s'inspirer d'un autre fait divers, mais tout aussi sanglant. Si les anecdotes de Wolf Creek, l'exorciste, les griffes de la nuit, terreur sur la ville et l'emprise sont connues dans les grandes lignes, Esther Hervy en redonne des récits complets et documentés. Le livre s'ouvre sur les Dents de la Mer, dont l'affaire à l'origine du roman de Peter Benchley a aussi donné un téléfilm de Jack Shoulder, 12 Days of Terror. Hollywood and True Crime Stories m'a permis de découvrir un autre film d'attaque animale, beaucoup moins connu que le film de Steven Spielberg, Back Country, un film canadien d'Adam MacDonald, dont le récit ne va pas réconcilier les climato-sceptiques et autres amoureux du tout béton avec la nature. Le livre se clôt sur la célèbre supercherie qui prit place au 112 Ocean Avenue à Amityville, où l'autrice s'est rendue. A-t-elle ressenti ou vu quelque chose lorsqu'elle a visité la maison? Eh bien ça, vous le saurez en lisant cet excellent et passionnant ouvrage qui propose une autre façon d'aborder des films maintes et maintes fois analysés en long, en large et en travers. Hollywood and True Crime Stories se lit d'une traite et est paru aux éditions du Rocher.
Mais Thomas, nous-mêmes, nous sommes des enquêteurs de l'impossible, hein, tu le sais. Et bien, nous avons décidé d'aller à la rencontre d'Esther Hervy pour justement aborder cet ouvrage, Hollywood and True Crime Stories, des faits divers qui ont inspiré le cinéma. Et donc tout de suite, Esther Hervy au micro de Culture Prohibée.
Esther Hervy, vous êtes l'autrice de Hollywood and True Crime Stories. Quel rapport entretenez-vous avec le cinéma ?
Alors moi, avec le cinéma, et particulièrement avec le cinéma de genre, donc je suis une passionnée depuis l'enfance, l'adolescence, et à travers ce nouvel ouvrage, j'ai vraiment eu envie de raconter des histoires vraies qui se cachent derrière certains films cultes, donc avec lesquels j'ai grandi, donc notamment avec Les Dents de la Mer, ou L'Exorciste, Les Griffes de la Nuit, ou Amityville encore, et puis j'avais aussi envie de faire connaître d'autres films un petit peu moins connus du grand public, comme L'Emprise, ou Terreur sur la Ville, ou un film un petit peu plus récent, Backcountry. Donc c'était vraiment en fait histoire de raconter chaque histoire vraie qui se cache derrière les films, et qui sont parfois un petit peu plus encore choquantes que la fiction elle-même.
Ah, je connais aussi votre intérêt pour la littérature de genre, vous parlez du cinéma de genre. Et qu'est-ce qui est venu en premier, la littérature de genre ou le cinéma de genre? Et quelle comment tout ça s'est influencé l'un l'autre?
Alors je dirais qu'en fait c'est venu en parallèle, parce que j'ai beaucoup été influencée par ma famille en réalité. Moi je suis la petite dernière d'une fratrie de 3 enfants, et notamment j'ai un de mes frères qui lui est passionné de cinéma de genre et qui m'a un petit peu initiée à tout ça, donc tous les films des années 70-80. Et de l'autre côté j'ai ma mère qui lisait énormément de Stephen King, et je lui ai un petit peu piqué en même temps des livres dans sa bibliothèque. Donc je me nourrissais en fait du cinéma d'un côté avec mon frère et de la littérature, donc notamment Stephen King, un petit peu plus tard quelque chose d'un petit peu plus thriller de la Mary Higgins Clark, mais en parallèle donc, les deux se sont vraiment mêlés et vraiment entremêlés l'un l'autre, et ça a influencé vraiment mon écriture, puisque après moi je suis partie quand j'ai commencé à écrire très jeune, vers l'âge de 12-13 ans, sur des nouvelles qui étaient du genre horrifique. Donc j'ai été très influencée par Stephen King, mais j'ai en même temps été très influencée par le cinéma de genre que je regardais aussi à l'époque.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de d'écrire ce livre après avoir écrit tant de livres sur les true crime?
Alors justement, l'idée en fait, elle est née d'un après-midi où j'étais avec mon frère, avec qui m'a initié au cinéma de genre, et on regarde toujours beaucoup de cinéma ou de documentaires ensemble à propos des films d'horreur ou d'épouvante. Et un après-midi, nous regardions en fait un documentaire sur le film Les Dents de la Mer. Et j'étais pas du tout au courant, pourtant c'est un vraiment de mes films cultes, et c'est un film je pensais vraiment vraiment connaître, notamment à propos de la genèse. Je connaissais pas mal d'anecdotes du genre, mais je ne savais pas du tout qu'il avait été tiré, les attaques de requins avaient été tirées de réelles attaques qui avaient eu lieu en 1916. Et là, vraiment, j'ai été extrêmement surprise et je me suis dit, on pense parfois connaître certains films. Et en réalité, il y a vraiment une vérité qui se cache derrière. Donc, même en connaissant profondément des films, on peut encore découvrir d'autres choses. Donc, je me suis dit, il y a peut-être d'autres films qui sont moins connus ou très connus. Il y a vraiment des histoires qui se cachent derrière. Donc, j'ai eu envie un petit peu de creuser parmi les films que j'adorais. Et j'ai découvert pas mal d'histoires vraies qui ont inspiré, alors des fois vraiment très à la marge, d'autres fois un petit peu plus, des cinéastes, donc essentiellement de l'époque 70-80. Et j'ai eu envie de le faire découvrir à travers cet ouvrage à mes lecteurs.
Alors, vous dites aussi que vous avez fait le choix des films selon les films que vous aimez aussi, des films que vous avez envie de partager, qui sont peut-être moins connus. Mais est-ce que vous avez écarté des titres? Et si oui, pour quelle raison? Est-ce qu'il y aura un volume 2 aussi?
Alors, il y aura peut-être un volume 2, pas dans l'immédiat, parce que je travaille sur un autre projet entre-temps. Mais il y a quelques films oui, que j'ai écartés parce que c'est des films que j'ai parfois aimés, comme par exemple The Girl Next Door, qui est pour moi un film assez difficile, puisqu'il traite, il traite vraiment d'abus sexuels. Incestueux en fait en famille et ça j'ai pas eu envie de le mettre derrière parce que c'était je trouvais qu'il dénotait vraiment par rapport au reste des films. Le volume 2, il y en aura peut-être un, donc on me l'a déjà réclamé, donc oui j'y pense parce que je pense qu'il y a quoi faire avec d'autres films, donc il faut que je réfléchisse aux autres titres. Là j'ai vraiment fait un condensé des films que j'aimais vraiment, qui sont un peu cultes pour moi, et après il va falloir que je cherche un petit peu plus profond pour le volume 2 si je l'écris, oui.
Écoutez Esther Hervy, autrice de Hollywood and True Crime Stories, les faits divers qui ont inspiré le cinéma, paru aux éditions du Rocher, au micro de Culture Prohibée. Oui, Esther, justement, dans les films que vous abordez, il y a un film, pourtant on est des fadas de cinéma, et en particulier de cinéma fantastique, horrifique, qu'on ne connaissait pas, qui est un film d'Adam MacDonald par rapport à une attaque d'ours, hein, voilà, c'est un spécial antispéciste, c'est Backcountry. Où vous êtes allé chercher ce film, Esther?
Alors, c'est un film que j'ai vu il y a pas si longtemps. C'est un des films justement qui est un petit peu à part dans l'ouvrage, puisque les autres films sont quand même plus anciens. C'est un film que j'ai beaucoup apprécié parce que pour son côté minimaliste. Et c'est un petit peu un retour aux sources par rapport, je trouve, aux films des années 70-80. Ce que j'aime dans ce cinéma-là, c'est que y a beaucoup de suggestions, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore l'avènement des effets numériques, de la technologie, du cinéma contemporain. Et je trouve que ça gagne au niveau de l'histoire et du scénario. Et pour moi, la suggestion est toujours beaucoup plus efficace chez le spectateur que de confronter vraiment frontalement l'objet de la peur. Donc j'y ai retrouvé, par ce côté minimaliste, un petit côté du cinéma des années 70 et 80 que j'affectionne énormément. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre dans l'ouvrage.
Parmi la sélection, on trouve un peu de tout. Il y a des films d'attaque animale, du cinéma fantastique, du cinéma policier ou thriller. Quels sont les films qui ont plus votre préférence dans cette sélection et pourquoi ?
Alors, les films qui ont plus ma préférence, bien que je sois une autrice qui est spécialisée dans les affaires criminelles, paradoxalement, les films qui ont ma préférence, c'est plus les films à connotation paranormale, comme L'Emprise, L'Exorciste ou Amityville. Et Amityville, j'ai un rapport vraiment particulier avec ce film. Alors déjà parce que c'est un film que j'ai découvert extrêmement tôt, je devais avoir, je sais pas, même pas une dizaine d'années, donc il m'a beaucoup marqué. Et puis après, par la suite, j'ai eu la chance de pouvoir aller visiter la maison elle-même, donc la maison qui est dans le film. Et donc j'ai vraiment un rapport très particulier à cette maison, ce qui fait que ce film-là est pour moi un des films en fait préférés de mon ouvrage et qui a une place vraiment privilégiée dedans.
Pour raconter ces anecdotes, ces histoires, il y en a certaines que je connaissais, mais de loin comme ça, mais on découvre vraiment des choses, je trouve. C'est très précis, il y a un vrai travail méticuleux de recherche. Quelles sont les sources que vous avez utilisées pour raconter toutes ces anecdotes ?
Alors, j'ai utilisé plusieurs sources, donc j'ai un petit peu... au final, j'ai travaillé un petit peu comme je travaille sur avec mes pour mes livres sur les serial killers ou vraiment les affaires criminelles pures et dures. J'ai beaucoup travaillé en sources ouvertes, donc tout ce qui est archives de presse. Je suis allée un petit peu fouiller toutes les archives de presse de chaque époque. Et puis pour certains cas, comme par exemple pour le film qui traite du serial killer de Phantom Killer ou pour Wolf Creek qui traite du serial killer Ivan Mila, là je suis il y a des sources vraiment judiciaires avec des dossiers de police qui sont accessibles, donc je suis un petit peu allée fouiller dans les dossiers judiciaires, mais en général je fouille dans les archives de presse de l'époque, et puis je vais beaucoup aussi me nourrir de documentaires, d'interviews de réalisateurs, d'interviews des victimes ou des protagonistes, des avocats, de tout ce qui est tout l'environnement judiciaire quand ça concerne des affaires criminelles. Donc vraiment tout ce qui est en open source, je vais fouiller le net le plus profondément possible.
Alors Esther Harvey, dans votre livre Hollywood and True Crime Stories, les faits divers qui ont inspiré le cinéma, paru aux éditions du Rocher, moi il y a une vous relatez des faits que je trouve particulièrement intrigants, et par rapport à Nightmare on Elm Street de Wes Craven, c'est la mort de 18 jeunes monks pendant leur sommeil entre 77 et 81, sachant que le film vient en 84. À titre personnel, j'ignorais complètement cette histoire qui est assez démente quand même.
Oui, absolument. Ce sont des... En fait, Wes Craven s'est inspiré d'une coupure de journal en fait, qu'il a lue. Un jour, il l'a gardé un petit peu dans un coin de sa tête. C'est-à-dire qu'il y avait des jeunes hommes donc, d'une communauté cambodgienne qui mouraient mystérieusement pendant leur sommeil. Alors, on pensait qu'ils avaient des terreurs nocturnes. Ils faisaient carrément des arrêts cardiaques. Et ce qui est vraiment intriguant, c'est que leur famille témoignait les voir un petit peu se débattre dans leur sommeil et vraiment être terrorisée. Wes Craven, donc ça l'a beaucoup beaucoup intrigué, et il s'est dit mais c'est vrai qu'une espèce de monstre ou vraiment l'antagoniste qui interviendrait dans les rêves, ce sera un antagoniste auquel on ne pourrait pas échapper puisque personne ne peut rester sans dormir. Et en fait là lui est née l'idée donc de son personnage principal, Freddy Krueger, qui pourchasse ses victimes à travers leurs cauchemars.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr et Radio Graphite, graphite.net. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Une émission animée avec Johan Chanoir, dit Le Chat Errant, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.